Alors, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, j'aurais le goût de reprendre ce que l'on partageait il y a un instant. Par une ironie du sort, judoka ne s'est pas aperçu où étaient les authentiques en Église. On a tellement tenu les tabernacles fermés que Jésus y est toujours, qu'on a tellement mis à l'écart les laïcs, les religieux, religieuses et les prêtres qui étaient des priants, des adorateurs, des croyants fervents, qu'on les a repoussés dans les garde-robes. Alors maintenant, on n'a qu'à ouvrir tout cela, les tabernacles, les endroits, les oubliettes, pour permettre aux authentiques de retrouver leur place en Église. Et l'attitude à avoir face au nouvel âge n'est pas une attitude de combat, de lutte. C'est une attitude, la meilleure, c'est de reprendre confiance en l'héritage que l'on a reçu en Église. Se rendre digne d'être des héritiers qui savent, qui découvrent les valeurs qui leur ont été confiées et à les remettre en vedette, d'abord dans nos vies et au milieu du peuple. Alors, ceci termine l'introduction. Je vous demande de bien avoir en main deux choses. La table des matières qui vous a été distribuée et qui accompagnera d'ailleurs toutes les cassettes lorsqu'elles seront distribuées, ainsi que quatre documents annexes A, B, C et D, car au cours de l'enseignement qui se poursuit, j'aurai souvent recours à ces graphiques. Vous pourrez suivre l'enseignement soit en consultant les documents mis à votre disposition, ou suivre à même le tableau qui reproduit ces mêmes graphiques ici à l'avant, près de la tribune. Passons, si vous le voulez bien, donc à la première partie de l'enseignement intitulée « Le climat indispensable à la pratique et à l'essor continu du « aimons-nous les uns les autres en Église » est celui où règne à la fois et à 100% la vraie de vraie vérité, la vraie de vraie liberté, et la vraie de vraie charité. Comme vous le savez déjà, dans la série « Le mangeons-nous les uns les autres », faute de temps, à la quatrième cassette, nous avons dû omettre ce qui devait être la sixième partie de tout l'enseignement. Et sur le champ, nous avons pris l'option de reporter le tout au début de cette série sur le « aimons-nous ». Et nous y voici. Si le « mangeons-nous les uns les autres », comme nous l'avons longuement expliqué dans l'autre série, si le « mangeons-nous » vient principalement du fait que nous ne vivons pas suffisamment en Église dans un véritable climat imprégné à la fois de vérité, de charité et de liberté, il devient évident. Alors, c'est même une vérité de la palisse, que le « aimons-nous les uns les autres » ne pourra fleurir, fructifier à nouveau que si l'on restaure cet indispensable climat de vérité, de liberté et de charité. En jeu de mots, on pourrait dire qu'on en arrivera à une ère nouvelle, qu'en se donnant des airs nouvelles, où circule un air nouveau. Reprenons ces trois expressions en épelant. L'ère, E accent grave RE, c'est-à-dire la période du aimons-nous, ne pourra s'établir en demeure en Église que si on peut commencer par avoir des airs A-I-R-E-S, c'est-à-dire des zones, des secteurs, d'abord, ou grâce à une heureuse concertation et une détermination ferme du groupe concerné, l'air nouveau, A-I-R, c'est-à-dire le climat nouveau de la vérité, de la charité, de la liberté, pourra s'intégrer, s'épanouir, envahir la place et se vivre pleinement. Bref, si le mangeons-nous les uns les autres, comme nous l'avons dit, redit et re-redit, est le scandale des scandales en Église à l'heure actuelle, le aimons-nous les uns les autres est le message des messages à entendre, accueillir et vivre dans un climat de vérité, charité et liberté si nous voulons que l'Église soit relancée spirituellement et perde sa stérilité actuelle au plan pastoral, apostolique et spirituel. Primo, pour cela, il nous faut redécouvrir d'abord la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Pas seulement en prêtant serment, mais en tout temps, avec tout le monde et partout. Nous connaissons cette antienne. Celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, et ses œuvres sont les œuvres de Dieu. Les psaumes font souvent l'éloge de la vérité, soit en Dieu, au psaume 43, verset 3, « Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront, me mèneront à la montagne sainte jusqu'en tes demeures. » Psaume 86, 11 « Montre-moi, Yahvé, tes voies, et je marcherai dans ta vérité. » Psaume 91, 4 « Sa vérité est un bouclier et une armure. » Et la vérité chez l'homme, au psaume 15, verset 2 « Celui qui marche en homme parfait, agit en juste et dit la vérité de son cœur. » Psaume 51, 8. Tu aimes la vérité au fond de l'être. Psaume 45, 5. Chevauche, élance-toi, tends ton arc pour la cause de la vérité. Précisons rapidement quatre urgents besoins sur ce point. Le premier, réapprendre à parler et à nous exprimer. Quand nous étions petits, nous avions tous, à quelques exceptions près, assez de spontanéité pour dire tout haut et immédiatement ce qu'on pensait, ce qu'on désirait, ce qu'on ressentait, ce qu'on ne comprenait pas, ce qu'on ne voulait pas. Ça venait et sortait assez facilement. À certains égards et aux égards de certains, peut-être trop facilement ou trop souvent. Il nous a fallu apprendre et éduquer cette spontanéité. Là où cette éducation s'est bien faite, sans tension ni torsion, l'enfant et l'adolescent ont vite appris à pouvoir bien s'exprimer, au fur et à mesure, clairement et spontanément. Là où par ailleurs, même avec les meilleures intentions, on a moins bien procédé, très souvent la spontanéité s'est perdue. Comme par exemple quand on a montré plutôt à l'enfant à se taire en réduisant ses temps d'expression spontanée, il ne faut pas trop parler devant la visite, il ne faut pas parler quand les adultes parlent, il ne faut pas parler à table, etc., etc., on lui a dit de bien penser avant de parler, sans pour autant lui montrer à quoi et à qui bien penser. Il a pu, comme plusieurs, croire qu'il fallait penser aux réactions possibles des autres, à la tournure de ses phrases, au meilleur moment pour le dire, etc., etc. Et autant de calculs qui, peu à peu, ont inhibé tout à fait sa spontanéité. Certains, aujourd'hui, même parmi les adultes, quand ils ont fini de faire tous leurs calculs pour ne pas se tromper en disant ce qu'ils croient, la conversation est rendue trop loin. Le sujet a même parfois changé et ils ont l'impression d'avoir perdu leur tour. Et l'inévitable réaction de ceux de celles qui ne disent pas au fur et à mesure ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, aiment ou n'aiment pas, c'est que cela fermente en eux et en elles. Et quand ça sort, en retardement, c'est habituellement chargé d'émotivité ou d'agressivité qui risque de blesser la personne visée. Alors que séance tenante, les tensions auraient été moins grandes, même advenant une diversité de vues. Donc, attendre pour mieux faire s'avère sur ce plan de l'expression de la vérité, parfois, souvent même, un mauvais calcul. Je vous réfère à l'enseignement déjà donné, intitulé et mis sur cassette 08B104, la troisième voie d'expression en Église, où on parle de la nécessité d'avoir le courage de s'exprimer. En second lieu, il faut apprendre à cesser de farder la vérité. Beaucoup sont incapables de regarder la vérité en face sans la farder. Ils préfèrent maquiller, sous prétexte de charité, les erreurs, les faux pas, les fautes. Parfois même, non seulement ils tentent de les excuser, mais essaient presque de les justifier et d'en complimenter les responsables, toujours sous prétexte d'être charitable. À ce moment-là, sans s'en rendre compte et sans le vouloir, ils faussent dès le point de départ tout le processus de la conversion, du repentir, de la guérison, de la libération, du pardon, etc. Il faut également renoncer à cet esprit de conciliation à outrance qu'on rencontre souvent, conciliation à tout prix, coûte que coûte, où trop souvent on immole la vérité, on bouscule la liberté et on présume la charité sous prétexte d'afficher l'unité. Des ententes, des compromis, des conciliations en quelque sorte forcées, extorquées au nom de pseudo-motifs spirituels, conclues, signées dans un climat plus artificiel que vraiment spirituel. Les gens cèdent ou concèdent à ces ententes sous pression, même parfois sous menace à peine voilée, par crainte de culpabilité, au nom de ce qu'on appelle l'unité à tout prix, à sauvegarder, et dans l'Église, à protéger. Ces ententes, ces réconciliations ou conciliations sont en fait, faut bien se l'avouer, gravées sur gélatine, et s'avère toujours éphémère. Le pacifisme à la sauce spirituelle est une autre des grandes fourberies de Judoka le fourbe. Cela n'a que les apparences de la paix, de l'amour, de la vérité et de la liberté. Le Seigneur Jésus a bel et bien dit, « Quand vous parlez, dites oui. » Ou dites non, tout le reste vient du malin. Matthieu 5, 37. Le sens, que votre oui soit un oui, que votre non soit un vrai non, c'est que la bouche profère vraiment ce que vous avez dans le cœur. En d'autres termes, que votre langage soit vrai, si vrai, qu'il n'a pas besoin même d'être assermenté. Donc, prendre plus de temps entre chrétiens, mais en arriver à des ententes toujours basées sur le triptyque vérité, charité et liberté, c'est arriver à des ententes valables et durables où l'unité s'avère solide. Les remarques que je viens de faire peuvent se transposer à l'égard de ceux et celles qui seraient tentés de vouloir concilier le style 1 et 2, par exemple. Ménager le chou et la chèvre. Vouloir se déclarer du style 2, mais en gardant leur hyperactivité, se penser, se dire apte à accueillir et vivre les deux harmonieusement. Donc, dire oui au style 2 sans complètement dire non au style 1. Bref, tenter de concilier l'inconciliable. Enfin, il est important de cesser d'avoir peur de dire la vérité. Le dicton « toute vérité n'est pas bonne à dire » est un dicton profane. Et en un sens, faux. Toute vérité pour un chrétien est bonne à dire. S'il apprend à la dire comme Jésus, avec beaucoup de charité et beaucoup de liberté. Ce n'est pas un manque de respect que de dire à quelqu'un la vérité. Au contraire, c'est le servir, l'aider, partager avec lui l'une de ses grandes richesses. Parler avec charité veut dire avec amour, et ça ne veut pas dire de faire en sorte que tout le monde se sente confortable. La vérité, même dite avec 100% de charité, dérange, désinstalle, rend donc l'un ou l'autre inconfortable. Et j'oserais même dire, tant mieux, car c'est souvent son faux ou pseudo-confort qui l'a chloroformé. Et là-dessus, je vous réfère également à cette cassette qui existe déjà, 04A101, intitulée « Parler en chrétien, qu'est-ce à dire ?» C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer dans cet enseignement donné il y a au moins une douzaine d'années, comment harmoniser vérité et charité. En second lieu, il nous faut redécouvrir, pour mieux en vivre, la vraie de vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. La prôner, l'expliquer et la laisser vivre à plein et en pleine Église. À toute fin pratique, on le sait, et on l'a constaté, la vraie de vraie destinée spirituelle des fidèles a été assumée peu à peu, veut-veut pas, bon gré mal gré, souvent par les gens au pouvoir en Église. Le clergé, l'épiscopat, les communautés religieuses, toutes les bonnes œuvres et les institutions patronnées par le pouvoir ecclésiastique. Et quel en est, en fin de compte, le bilan de toute cette déviation dans le style de l'Église et le style qui prévaut encore en certains milieux, une fois cette rançon versée à la domination et la vraie liberté des fidèles immolée à toute fin pratique, c'est qu'on a aujourd'hui un peuple de Dieu en notre Église qui est souvent, trop souvent, généralement orphelin et errant. D'une part, il rejette de plus en plus la mainmise des gens au pouvoir ecclésiastique et religieux sur leur destinée spirituelle personnelle et leur refuse de plus en plus ce droit de décider à leur place. et d'autre part, un peuple, parce qu'il n'a pas eu l'occasion ou la chance d'apprendre à se prendre en main en toute liberté d'initiative et de responsabilité, aujourd'hui en a presque perdu le goût, la volonté, ou chose certaine, n'en a pas acquis l'habitude ou l'aptitude. Et beaucoup sont devenus, spirituellement parlant, des suiveurs, c'est-à-dire, au sens figuré, des personnes qui s'inspirent d'autrui sans esprit critique, qui ne font que suivre, ou des timorés, qui est trop attaché à ses habitudes, qui craignent le risque, les responsabilités, l'imprévu, l'indécis, donc sont des indécis, des craintifs spirituellement, ou, pire encore, des accroupis, assis sur leurs talons, les jambes repliées, un peu comme des petits louveteaux devant leur chef. Et on pourrait rédiger une très longue liste, très longue litanie de ces dominations prises en otage courantes. Que de dirigés sont pris en otage, dominés par leur directeur spirituel. Que d'entourages d'évêques ou de prêtres le sont. Que de dirigeants de mouvements dits spirituels, même de renouveau, prennent en otage leurs membres. Que de directeurs de centres de renouveau chrétiens ont une domination presque ex-cathédra sur leurs bénévoles et collaborateurs et collaboratrices. Que de domination exercée par des gens qui ont d'authentiques charismes dans leur manière de les exercer avec autoritarisme. Le style 2 nouveau, mes chers amis, veut favoriser à plein l'épanouissement de la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Et ce, par voie de remontée et de subsidiarité, où les niveaux supérieurs n'assument ou n'assumeront que les responsabilités qui ne peuvent ou ne veulent ou ne doivent pas s'assumer d'abord au niveau inférieur. L'édifice des responsabilités et des services en Église s'élève et s'élèverait de bas en haut, laissant à chacun et chacune, exhortant même chacun et chacune, à prendre en main le plus et le mieux possible tout ce qu'il peut. C'est d'ailleurs une des grandes thèses de la doctrine sociale de l'Église. Quand j'enseignais cette matière depuis 30 ans, 40 ans, c'était une des thèses fondamentales de la doctrine sociale de l'Église, la subsidiarité, le principe de subsidiarité. On recommande à tout le monde de l'appliquer. Il faudrait qu'en Église, on arrive à nous l'appliquer d'abord. Bien entendu, ce changement est radical, mais il est seul capable de nous faire revenir à l'esprit de service et à quitter l'esprit de pouvoir. Il va exiger un bon temps d'apprentissage, de rééducation, de désintoxication même, un temps de brouillon, de risque, d'erreur inévitable. Mais c'est indispensable si on veut un peuple de Dieu spirituellement mature et autonome. Je ne développe pas davantage ce point, je l'ai déjà fait, comme vous le savez, dans deux cassettes intitulées « Vive la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu », 12 G2, 10 et 11. Et également, en l'appliquant à une situation particulière, dans une cassette, un enseignement intitulé « Aux parents chrétiens pris en otage par leurs enfants ». Et prochainement, il y aura une autre cassette qui fera la paire, les aux enfants chrétiens pris en otage par leurs parents. Troisièmement, enfin, il nous faut découvrir ou redécouvrir la vraie de vraie charité fraternelle et communautaire, animée et ressourcée continuellement en l'amour trinitaire. pas une charité diluée, frelatée, réduite à l'amour purement humain ou profane, naturel ou ordinaire, mais la charité, celle que Dieu nous offre, qu'il veut échanger avec nous, et nous demande de partager et de faire circuler entre nous. À la vérité, à toute fin pratique, on a dilué peu à peu, puis abandonné la charité fraternelle vraiment chrétienne, avec tout son cortège d'exigences et de vertus annexes, pour y substituer des facsimilés, des succédanés humains, bons en soi, mais profanes. L'amitié, l'entre-gens, la camaraderie, le tutoiement, l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, et la dernière en liste, l'amitié civique. Tous ces termes sonnent bien, sont de prime abord séduisants, mais sont creux et vides de sens vraiment chrétien si on n'y prend pas garde. Normalement, c'est la charité chrétienne qui devrait être, pour des baptisés, à la racine ou le ressourcement continu de tous les autres types de relations humaines. Quand l'amitié, la camaraderie, l'esprit d'équipe, la solidarité et même l'amitié civique sont des fruits ou des fleurs de la vraie charité fraternelle chrétienne, c'est-à-dire la continuité de l'amour de Dieu circulant entre nous, c'est parfait, il n'y a pas d'inquiétude. Sinon, sevré de cet amour divin et fraternel, ils finissent par être des fleurs séchées ou artificielles et donner des fruits secs. Ce thème de la charité sera donc au cœur de toute cette série d'enseignements. On en considérera l'origine et le but, puis on l'examinera sous tous ses angles, et je vous réfère au plan général qui est entre vos mains. Mais avant de terminer cette première partie, il est suprêmement important de proclamer à nouveau que le climat indispensable à l'essor et au maintien de l'esprit du « aimons-nous » exige non seulement comme ingrédient la présence des trois, c'est-à-dire de la vérité, de la charité et de la liberté, mais exige que les trois y règne, y rayonne, tous les trois à la fois, et tous les trois à leur maximum possible. Si l'une des trois flanche le moindrement, le climat se pollue. La vérité ou la liberté, sans la charité, en plénitude, ne s'épanouissent pas correctement, deviennent vite odieuses et provocantes, et peuvent abuser de celles des autres, liberté et vérité, et susciter heurts et conflits. Même des procédés que l'on conçoit comme bons, et même des gestes ou des initiatives dites vertueuses, sans la vraie de vraie charité chrétienne, peuvent irriter, blesser, diviser. Même si la charité et la liberté y ont leur quota. Prenons, par exemple, une monition fraternelle, vraie, mais qui ne serait pas charitable et ne laisse pas l'autre libre, est dommageable. Une mise au point ou une mise en garde, même de la taquinerie, de l'humour, qui tout en étant amical et fraternel ne sait pas s'arrêter, se doser, rendre service à un autre, matériellement ou autrement. S'il n'y a pas de quota de charité, peut gêner, humilier, si l'on n'y sent pas son amour au Seigneur. Comme on le dit dans le psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Mais hélas, dans la vérité, l'embrassement et la rencontre ne sont pas toujours évidents. Passons maintenant à la deuxième partie. Le commandement nouveau de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous en verrons en cinq courts chapitres la promulgation, la proclamation par les apôtres, les mandataires, les destinataires, l'importance, la nature et la mesure. Chapitre A. La promulgation officielle du commandement nouveau se situe lors de l'entretien suprême avec ses apôtres au cours de la dernière scène, après leur avoir lavé les pieds, et dès que Judas fut sorti. Jean 13, 34 et 35, et je cite Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Pourquoi dire commandement nouveau? Eh bien, c'est que le monde païen, comme le monde israélite, et on peut déjà lire ça dans le livre du Lévitique au chapitre 19-18, avait déjà reconnu et prôné les bienfaits de l'amitié, du service mutuel. Le commandement de Jésus est nouveau en ce sens qu'il va beaucoup plus loin et plus haut que ce qui avait été enseigné jusque-là. Il invite à entrer dans la communauté et la communauté eschatologique, donc l'œuvre du salut. Et en outre, exige l'humilité, nous incite à prendre la dernière place parfois, nous incite au pardon et même jusqu'au don de soi pour les autres. Jésus ne vient pas seulement proposer une norme, un style de vie, mais un engagement à vivre pleinement l'amour fraternel, car il devient le signe par excellence de l'amour de Dieu dans la vie des hommes. Chacun et chacune doit donc devenir et rester don, accueil, échange d'amour fraternel. Chapitre B. Voyons sa proclamation par les premiers apôtres et les saints et saintes au cours des siècles. On le sait, l'Évangile et les actes des apôtres surtout nous le confirment, le commandement nouveau a été bien accueilli et proclamé par tous les premiers grands apôtres. À titre d'exemple, citons saint Pierre dans sa première épître, chapitre 1, 22-23. Vous avez cherché la vérité et vos âmes sont devenues pures pour que vous vous aimiez comme des frères d'un amour vrai. Et au chapitre 4 de la même épître, verset 8. Avant tout, ayez un grand amour les uns pour les autres, car l'amour supprime de très nombreux péchés. Saint Jean, nous le dit en termes très explicites dans sa première épître de Saint Jean, chapitre 4. Aimons-nous les uns les autres. L'amour de Dieu, l'amour vient de Dieu, et celui qui aime, quel qu'il soit, est un enfant de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est l'amour. Au chapitre 4, verset 20 de la même épître, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Dans chapitre 4 également, versets 10 et 11, Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils pour réparer nos péchés. Si Dieu nous a tant aimés, à notre tour, nous devons nous aimer les uns les autres. Saint Paul également, dans l'Épître aux Romains, n'ayez de dette envers personne si ce n'est pour vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime le prochain accomplit tout ce que demande la loi. En effet, les commandements, ne sois pas adultère, ne tue pas, ne vole personne, n'aie pas de désir immodéré, et tous les autres commandements se résument dans cette phrase, aime ton prochain comme toi-même. Épître aux Romains 13, 8, 10. Cela a été repris également par les saints et saintes à travers les âges. Je cite ici la phrase de Saint Clément de Rome, qui a été le quatrième pape, Clément Ier, au premier siècle, à la fin du premier siècle, qui dit dans une exhortation aux Corinthiens, « Pourquoi parmi-vous des querelles, des emportements, des discussions, des schismes? Pourquoi une guerre? Pourquoi se déchirer et écarteler les membres du Christ? Pourquoi être en révolte contre votre propre corps? Pourquoi en venir à cette folie d'oublier que nous sommes membres les uns des autres? » Fin de la citation. Prenons plus tard Saint Augustin au IVe siècle, qui dit ceci, je cite, « Voulez-vous savoir si vous vivez de la vie de la grâce, si Dieu vous donne son amitié, si vous faites réellement partie des disciples du Christ, si vous vivez de son esprit, eh bien, interrogez-vous vous-même. Voyez si vous aimez les hommes, vos frères, tous les hommes. Si vous les aimez pour Dieu, et vous aurez la réponse. Et cette réponse ne trompe pas, dit saint Augustin. Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, le Seigneur ne demande que deux choses, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà le but. Comment y arriver? Le moyen le plus assuré, selon moi, continue sainte Thérèse d'Avila, de savoir si nous observons ces deux préceptes, c'est de voir quelle est notre perfection relativement à l'amour du prochain. Aimons-nous Dieu? Nous ne pouvons le savoir, quoiqu'il est cependant il existe de grands indices pour en juger. Mais pour ce qui est de reconnaître si nous aimons le prochain, oui, nous le pouvons. Soyez-en certains. Autant vous aurez fait du progrès dans l'amour du prochain, autant vous en aurez fait dans l'amour de Dieu. Chapitre C. Qui sont à la fois les mandataires et les bénéficiaires de ce grand commandement? Mandataires, c'est-à-dire ces personnes à qui est conféré ce mandat, et bénéficiaire, personne qui bénéficie d'un avantage et d'un privilège. Eh bien, On peut répondre ceci, absolument tous les êtres raisonnables, capables de l'amitié de Dieu et de la béatitude éternelle. Donc, ce commandement s'applique à chacun de nous d'abord. Nous devons nous aimer et vouloir notre bonheur parce que en nous aimant, nous nous conformons à l'amour que Dieu a pour nous et au désir qu'il a de nous rendre heureux. Donc, on ne peut pas penser aimer les autres si on n'accepte pas cet amour pour nous d'abord. Ça s'applique aux anges, aux saints, aux âmes du purgatoire, bref, à tous les êtres vivants, les fidèles, infidèles, les justes, les pécheurs, les amis, les ennemis pour lesquels il y a un précepte particulier les obligeant à les aimer. Et c'est saint Jacques qui nous le dit carrément dans sa lettre au chapitre 2, versets 8 et 9. Si vous accomplissez le grand commandement de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, votre conduite est bonne, c'est certain. Mais si vous n'aimez pas tous les hommes sans exception, vous faites le péché et la loi vous condamne parce que vous lui désobéissez. Saint Jacques dit qu'il faut aimer donc tout le monde, sans exception, peu importe leur condition, leur race, quel que soit leur caractère, leur culture, leur fortune, leur genre de vie, leurs idées, etc. La seule exception au grand commandement de l'amour du prochain, ce sont les démons et les réprouvés parce qu'ils sont exclus de la charité divine et parce qu'ils ne sont pas capables de jouir de l'amitié de Dieu. Voyons maintenant la grande importance de ce commandement nouveau. Et j'en donne deux raisons. D'abord, c'est que le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Pas deux, cinq ou dix, un seul. C'est à ce signe au singulier que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Quand il y a plusieurs signes ou plusieurs commandements pour identifier des gens, on peut s'en tirer assez bien dès que certains sont accueillis, sont suivis. Mais quand il n'y en a qu'un, eh bien, il est là ou il n'est pas là. On est perçu comme disciple du Christ ou on n'est pas perçu comme disciple du Christ. Il n'y a pas d'échappatoire ou de dérobade. Et la deuxième raison, et on me fait signe que ça achève rapidement, dans sa prière, Jésus a demandé au Père qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître et croire que, premièrement, c'est toi qui m'as envoyé et deuxièmement, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelle responsabilité que l'exécution de ce grand commandement, et l'on va se quitter, et on reviendra brièvement sur ce point plus tard.